juste ce matin. Seigneur, on te rend grâce, on te bénit pour ce moment que tu nous donnes, pour ta présence, pour ton souffle de vie, pour le repos que tu nous as accordé cette nuit et pour les forces que tu as renouvelées. Je te demande de prendre contrôle de cette journée et plus encore de prendre contrôle de ces quelques instants que nous disposons à passer en ta présence en étudiant ta parole. J'appelle ta bénédiction sur ma sœur, sur mon frère. J'appelle, Seigneur, notre esprit à être éclairé par ton esprit, par ta parole. J'appelle, Seigneur, notre être intérieur à être transformé, changé par la puissance même de la parole que nous allons prononcer ce matin. Et on prie, Seigneur, que cette parole trouve un terrain qui a été préparé par ton esprit et dans lequel, Seigneur, tu peux non seulement semencer, mais faire croître, Seigneur, un arbre qui portera un fruit qui te sera agréable jusque dans l'éternité. Alors je demande ainsi pour ma sœur, pour mon frère, mais aussi pour moi-même, que tout ce que nous allons faire, que tout ce que nous allons dire, que tout ce que nous allons entendre ce matin soit guidé par ton esprit et que tu nous bénisses, tu nous rafraîchisses, tu nous abreuves et tu nous nourrisses ce matin. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, on lit bien entendu notre texte des 50 premiers jours de cette année. Ésaïe 61, le verset 1 et la première phrase du verset 2. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et la phrase que nous étudions cette semaine, pour proclamer aux captifs la liberté. Pour proclamer aux captifs la liberté. On a vu deux termes déjà depuis lundi. On a vu le terme envoyé, shalak. On a vu le terme proclamé, un terme qui m'est cher, le terme kara. Et aujourd'hui, on étudie le terme captif. Donc, pour ceux qui prennent des notes, en hébreu, c'est le terme shabar, shabar. Donc, S-H-A. B-A-H, je répète, Shabar, S-H-A-B-A-H, qui revient 47 fois dans l'Ancien Testament. Et on va voir trois déclinaisons, et après ça, deux points supplémentaires, simplement pour bien adapter ce texte à votre contexte personnel ou au contexte des gens qui pourrait vous entourer aujourd'hui. Donc, on a vu que le Seigneur nous a envoyés vers des prisonniers, vers des captifs, afin qu'on puisse proclamer, qu'on puisse œuvrer à la liberté même de ces captifs. Donc, c'est une grâce que le Seigneur nous accorde, nous qui étions aussi autrefois liés par nos péchés, liés par nos iniquités. Dieu nous accorde ce privilège aujourd'hui, non seulement de bénéficier de la liberté qu'il nous accorde, de bénéficier du salut qu'il nous a donné à travers sa mort et sa résurrection, mais de surcroît à cela, il fait de nous des agents de libération, des agents de liberté pour les captifs de notre génération. Quel merveilleux privilège on a, nous qui étions autrefois enchaînés, de pouvoir briser des chaînes, nous qui étions autrefois en prison, de pouvoir faire sortir des prisonniers comme nous en avons aussi bénéficié. Je pense que lorsque nous bénéficions d'une grâce dans le monde laïque, dans la vie de tous les jours, ceux qui ont bénéficié d'un grand cadeau qu'ils ne méritaient pas, d'une grâce, d'un pardon au niveau légal, au niveau juridique, très souvent, ces gens sont tellement impactés, je ne sais pas si le terme se dit, je sais qu'on l'utilise, mais on va faire comme s'il se disait, on impacte tellement fort dans leur vie de parce qu'ils ont bénéficié de cette grâce, qu'ils, très souvent, ils vont axer leur vie ou ils vont vouer leur vie à rendre à leur prochain. Il y a cette, cette émission de télévision qui s'appelait, jusqu'à il y a quelques années, Donner au suivant. Donc, c'était quelqu'un qui recevait un cadeau et qui devait par la suite s'arranger pour donner aussi à quelqu'un d'autre. Très souvent, c'était une question de maison qu'il y avait à réparer. Et on disait, ben, cette grâce que tu as eue, ben, que tu puisses aussi la manifester envers d'autres personnes qui pourraient être dans le besoin. Il y a un organisme en particulier qui s'appelle Habitat for Humanity, qui construit des maisons dans des secteurs moins nantis, dans des secteurs pauvres, que ce soit au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde. Et on dit à ces gens-là, vous allez bénéficier d'une maison, mais vous allez avoir le devoir de participer par la suite à la construction des autres maisons qu'on va construire et qu'on va bâtir pour d'autres personnes dans le besoin. Et c'est cette espèce de renouvellement qui est très biblique. Paul, lorsqu'il va dire à Timothée, ce que tu as reçu de moi, enseigne-le aussi à d'autres. Cette grâce que tu as reçue de moi à travers mes enseignements, que tu puisses prendre cette même grâce et la remettre à d'autres. Donc, c'est donc un privilège que Dieu nous donne à nous qui avons été graciés, à nous qui avons été libérés, de pouvoir aussi travailler auprès d'autres personnes qui, elles, actuellement, ont besoin d'être libérées. La première notion par rapport à captifs, et ça va nous donner peut-être une compréhension que les captifs ne sont pas nécessairement toujours des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Regardez, lorsqu'on parle de captif, shabar, on parle premièrement comme définition de quelqu'un qui est amené vers la captivité, quelqu'un qui est amené vers la captivité. Juste cette notion-là, sachant que nous sommes tous pécheurs, que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Donc, de par notre naissance avec notre état pécheur, on est déjà lié par les chaînes du péché. Alors, si on nous amène vers le péché, ça peut représenter deux choses. Soit ça représente quelqu'un qui a été gracié, qui a connu le pardon et qui s'est retrouvé à un moment donné de son parcours de retour à la case pécheur, à la case liée, à la case je suis enchaîné à cause de mon péché. Donc quelqu'un qui aurait connu une phase de rétroaction, une phase où il retourne en arrière. Parfois on a ce terme un peu péjoratif de rétrograde, donc quelqu'un qui a avancé et qui après ça a rétrogradé, a reculé. Donc il y a cette notion-là dans amener vers la captivité, mais il y a aussi la notion d'amener toujours plus profondément dans le péché. Comprenons une chose, le péché n'est pas quelque chose de statique. Le péché, si on n'y remédie pas, si on n'arrange pas cette situation, si nous n'en sommes pas libérés, la seule chose que le péché va entraîner en nous, c'est de continuer de plus en plus à nous enfoncer dans ce péché. Et lorsque je parle de nous enfoncer dans le péché, je ne parle pas nécessairement que du jour au lendemain ou en bout de ligne, on va devenir tous des meurtriers, qu'on va nécessairement être tous des junkies accrochés à la drogue ou autre. Non, c'est juste que il vient à y avoir une quiétude dans la pratique du péché. Si au départ le péché nous offensait, si au départ il y avait une espèce de culpabilité, une espèce de malaise qui survenait après la pratique du péché, plus on pratique le péché, moins ce malaise, moins cet inconfort ne nous habite et plus nous sommes habitués par le péché et plus il y a une nonchalance face à celui-ci. Alors cette nonchalance est déjà une détérioration et déjà une situation pire qu'originellement. Donc plus on va être dans le péché et plus on va se maintenir dans le péché, plus on va être à l'aise dans le péché, plus on va essayer de justifier le péché, plus on va essayer de l'excuser par les situations, par le contexte et tout ça. Soyons très très clairs. Le péché, Dieu haït cela. Pourquoi il haït cela? Parce qu'il sait que le péché nous prive d'avoir accès à lui. Voilà pourquoi Dieu déteste le péché. Dieu déteste le péché parce que de ses enfants qui devaient passer l'éternité dans la réjouissance, dans la félicité et dans la grâce de Dieu, nous avons été volés de cette grâce à cause du péché. Alors Dieu ne peut pas aimer le péché parce qu'il sait que ça nous prive de sa présence, ça nous prive de sa bénédiction, ça nous prive de l'éternité passée en sa présence. Dieu ne se réjouit pas du pécheur. Dieu ne se réjouit pas de la condamnation du pécheur. Dieu en est attristé. Dieu en est ému à un tel point qu'il va envoyer son Fils unique pour le salut de l'humanité. Lorsque quelqu'un est prêt à donner son Fils pour le bienfait, pour le bien-être de quelqu'un d'autre, il faut à la base qu'il y ait un amour profond, viscéral et un amour qui ne peut pas être réduit à néant pour donner son propre Fils. Dieu a donné ce qu'il avait de meilleur pour toi et pour moi en la personne de Jésus, un innocent parfait qui est sorti de la gloire de Dieu pour marcher sur cette terre et mourir comme le pire et le plus vil des pécheurs. Dieu, il fallait qu'il nous aime vraiment pour qu'il accomplisse cette chose-là pour nous. Donc, Dieu ne se réjouit pas de la captivité, mais sachant que, oui, et on va le voir tout à l'heure, il y a des moyens de sortir de cette captivité, mais si on n'y réagit pas, si on ne prend pas des mesures adéquates, nous n'irons que de mal en pis jusqu'à un point où le péché ne nous dérangera plus. Deuxième point. Donc, amener vers la captivité à travers des pièges, à travers des leurres, à travers des traquenards, à travers des habitudes qui nous sont proposées et qu'on adopte. Mais après ça, on nous dit qu'on va devenir, on va avoir un statut, on va être fait captif. Le premier point, amener vers la captivité. Le deuxième point, être fait captif. Et lorsqu'on parle d'être fait captif, on parle d'un changement d'identité. On parle de quelqu'un qui était libre et qui maintenant est incarcéré. Quelqu'un qui était innocent et maintenant il est coupable. Quelqu'un qui était dans toute la liberté de la société normale et qui maintenant se retrouve prisonnier, incarcéré. Le prisonnier a un statut social, un statut civique qui est tout à fait unique. Et lorsqu'on parle du pécheur, on parle aussi d'un statut, d'une identité. Et face à Dieu, il y a seulement deux identités. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas dix, il n'y en a pas une qui est à cheval entre les deux. Devant Dieu, il y a celui qui est sauvé, racheté, qui a été restauré, qui a vécu la rédemption à travers la mort de Jésus, à travers sa résurrection, et en le recevant comme sauveur, et en donnant sa vie à Christ. Et si tu ne fais pas partie de ce groupe des rachetés, tu fais partie du groupe des captifs qui sont menés graduellement et de façon plus intense, jour après jour, en captivité et dans la condamnation, loin de Dieu. Il n'y a pas un demi statut. Tu es l'un ou tu es l'autre. Tu ne peux pas être à cheval entre les deux. À un moment donné, Dieu va dire, choisissez qui vous servirez aujourd'hui, l'Éternel ou Baal, l'Éternel ou Mammon. Choisissez aujourd'hui la vie et non la mort. Donc, il n'y a pas cette zone grise. Le diable voudrait nous faire croire que la zone grise existe, que tu peux être en paix avec Dieu et en paix avec le diable, que tu peux faire certains compromis qui fait que tu peux donner à Dieu 99% de ta vie, mais il y a ce 1% que tu gardes pour toi. En fait, tu ne gardes rien pour toi. Ce 1% ne t'appartient même pas. Ce 1% fait que tu es prisonnier. Ce 1% fait que tu es prisonnier du péché et de l'iniquité. Le diable voudrait amener cette doctrine de démon qui émane directement de l'enfer, qui voudrait te faire croire que si tu gardes simplement 1% dans ta tête, c'est comme ce 1%, c'est minime, ce n'est rien, c'est pas grave. Tu te dis, mais c'est juste 1%. J'ai donné 99% à Dieu. À Dieu, il prend 100% ou il ne prend rien. Et le diable est conscient de cela. Le diable sait cela. C'est pour ça qu'il essaie de te tromper, de te leurrer, de te berner pour être capable de faire un compromis. Le diable est d'accord avec tous les compromis. Le diable pourrait se contenter de ce 1% parce qu'il sait que Dieu ne se contentera pas de 99%. Le diable sait que ce 1% signe ta défaite, signe ta condamnation, signe ta mort éternelle. Et voilà pourquoi le diable est prêt à faire ce compromis, parce qu'il sait que devant Dieu, celui qui est le législateur, celui qui établit les lois, celui qui est le juste juge, il sait que Dieu ne peut pas faire de compromis là-dessus. Donc ce 1% que tu crois avoir entre tes mains, ce 1% que tu crois être raisonnable, ce 1% t'amène à la condamnation pour l'éternité. On avait ce vieux cantique à l'époque, c'était le pasteur Fontalvo qui le chantait avec sa première épouse, la sœur Myriam, « Ce qu'il veut, c'est toi ». Pas juste une partie, il veut toute ta vie. Ce qu'il veut, c'est 100%. C'est la vérité, c'est la pensée de Dieu. Lorsque tu lui donnes ta vie, tu ne lui donnes pas partiellement ta vie, tu lui donnes dans son entièreté. Et si tu n'as pas ce statut de sauver, de racheter, qui vient avec le fait d'avoir donné 100% de ta vie à Dieu, tu es donc dans le statut de pécheur, dans le statut de condamné et dans le statut de la personne qui se destine jour après jour, pas après pas, seconde après seconde, à une condamnation éternelle. Le diable le sait. Il veut s'assurer que toi, tu ne le saches pas ou que toi, tu puisses te fixer de nouvelles lois. Ce n'est ni toi ni moi qui fixons les lois. Le jeu a été établi, les règles de jeu plutôt, ont été établies avant même que l'homme n'existe. Dieu est maître en toutes choses. Dieu est le roi et souverain sur toutes choses. Le code civil de l'humanité a été établi par Dieu. Si tu ne te soumets pas au code civil des lois ici-bas sur terre, tu vas en prison. Si tu ne te soumets pas au code civil de Dieu, tu es aussi en infraction et ton statut de libre passe au statut de emprisonné, de captif. Troisième point qu'on mentionne ce matin, on nous parle aussi, lorsqu'on parle de Shabbat, on nous parle aussi de diriger des captifs. Et là, on parle de diriger dans le sens conduire, faire être le leader parmi des captifs. En fait, on parle de mode de vie. On a parlé tout à l'heure des pièges qui nous mènent à la captivité. On a parlé d'un statut propre au captif, mais il y a aussi un mode de vie du captif. Et c'est un grand danger pour toi de ne pas vouloir que Dieu transforme ta façon de voir, ta façon de penser, et de ne pas vouloir toi-même aussi adapter ta façon de penser au plan originel de Dieu. La Bible est notre mode d'emploi. La Bible est notre cahier de l'utilisateur. Dieu nous donne une vie et à travers la Bible, on apprend comment mener cette vie. Et soit on l'amène en accord avec Dieu, soit on mène cette vie avec l'approbation de la parole de Dieu, l'approbation de Dieu lui-même, ou on l'amène en faisant infraction sur infraction sur infraction sur infraction. Notre mode de vie doit être adapté au royaume de Dieu. Si notre mode de vie n'est pas adapté, n'est pas façonné, si Dieu n'a pas cette liberté pour intervenir dans notre vie, pour façonner notre être, façonner notre façon de faire, pour opérer selon le plan qui nous est dicté par la parole de Dieu, ça veut donc dire que nous continuons à être liés par le péché. Je ne suis pas en train de dire que le chrétien ne pêche plus. Je ne suis pas en train de dire que le chrétien n'est pas tenté. Paul lui-même va dire que ce que je voudrais faire, c'est pas ce que je fais, et ce que je veux pas faire, voilà ce que je fais en fait. Il va aussi nous parler sur le processus de la tentation. On est d'abord, va-t-il nous dire, on est d'abord leurré. Il y a d'abord un hameçon qui nous est lancé, un appât, on est appâté, puis on vient mordre lorsqu'on décide de céder. Et le péché arrive à ce moment-là où je dis oui au péché. La tentation, tu en auras constamment, toujours, jusque dans l'éternité. La tentation fait partie du combat spirituel qui s'opère dans ta vie entre le bien et le mal. Tu es toujours confronté avec la décision de faire ce qui plaît à Dieu ou de faire ce qui déplaît à Dieu. Le diable voudra toujours te présenter des choses qui t'entichent, des choses qui t'attirent, des choses qui t'interpellent pour aller dans la mauvaise voie. Le diable fait son boulot, mais à toi et à moi de prendre aussi les décisions, de façonner, de travailler à réformer notre mode de vie. Paul va dire que lui s'empêchait de faire certaines choses, qu'il traitait durement son corps pour ne pas être rejeté plus tard après avoir enseigné à d'autres. Ça veut donc dire que que Paul faisait en sorte de conformer son être, ses actions, ses paroles, son mode de vie avec la parole de Dieu. Et ça, c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est adapter notre vie avec la vie, la pensée, la parole de Christ. Y a-t-il moyen d'éviter la chute? Depuis le départ, depuis le tout début, il y a moyen effectivement d'éviter la chute. Rappelons-nous ce qui se passe dans la vie de Caïn. La Bible nous dit que Caïn et Abel, les deux fils d'Adam et Ève, les deux premiers fils d'Adam et Ève, la Bible nous dit qu'ils vont chacun offrir une offrande à Dieu. Un va offrir une brebis, Abel, et cette offrande est reçue favorablement par Dieu. Caïn va offrir à l'Éternel plutôt des fruits et des légumes issus de sa récolte. Et la Bible nous dit que cette offrande a déplu à Dieu. Et Dieu va dire à Caïn, « Regarde, le péché campe à ta porte, mais résiste. Et si tu agis bien, tu relèveras la tête ou ton visage. » Ça se trouve dans Genèse au chapitre 4, le verset 7. Genèse 4, verset 7. « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Juste pour clarifier, certains regardent l'histoire de Caïn et Abel et se disent « Mais c'est injuste pour Caïn qu'il n'ait pas été capable ou que Dieu ait refusé son offrande. C'était quand même de beaux fruits, c'était quand même... » Caïn savait ce que Dieu aimait. La Bible nous dit « Quel est le fruit que Adam et Ève ont mangé ? Le fruit de la connaissance du bien et du mal. » Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, lorsqu'ils ont croqué le fruit, cette connaissance du bien et du mal a habité non seulement Caïn, mais aussi Abel. Et les deux ont eu un choix. Les deux savaient ce qu'il plaisait à Dieu. Caïn a décidé d'offrir à Dieu ce que lui, ça lui tentait d'offrir. Et dire à Dieu, « Contente-toi de ce que je t'offre. » Et pourtant, cette connaissance du bien et du mal habitait ces deux personnes-là, habitait ces deux jeunes hommes. Donc, il n'y a pas eu une injustice parce que Caïn connaissait, de par le fruit qui a été mangé par ses parents et de par la conséquence du péché, il savait que cette offrande serait refusée, mais il s'est entêté à offrir malgré tout à Dieu quelque chose qui ne lui plaisait pas. C'est un peu comme toi et moi lorsqu'on dit à Dieu « Satisfais-toi du 99% que je te donne. » Dieu dit, je ne peux pas me satisfaire de ça. La loi divine fait en sorte que Dieu ne peut pas accepter le 99%. Mais lorsque nous, on dit à Dieu, c'est ce que tu vas devoir te contenter, on est en train de faire exactement comme Caïn. On est en train de forcer à Dieu d'accepter ce que Dieu a déjà établi comme quoi il n'acceptera pas 99%, mais Dieu veut le 100% de ses enfants, de ses créatures. Alors je prie ce matin que tu sois attentif à la voix de Dieu. Dieu te dit à toi ce matin, Dieu me dit à moi ce matin, la même chose qu'il a dit à Caïn dans Genèse 4, certainement si tu agis bien, donc tu peux agir bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché couche à ta porte. Le péché est juste à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Je prie effectivement que tu domines sur le péché. Que tu relèves la tête. Que tu agisses bien et que tu domines sur le péché. Que se passe-t-il si j'ai déjà péché? Que se passe-t-il si je suis comme Caïn, j'ai cédé au péché? Je ne suis pas encore mort. Y a-t-il une possibilité de salut pour moi? Il y a effectivement possibilité de salut pour toi. L'Ancien Testament nous parle dans Lévitique, si je ne m'abuse, je prends ici mes notes, non, dans Nombre au chapitre 21. On nous dit qu'à un moment donné, Dieu pourvoit la manne. Donc Dieu pourvoit sa grâce envers son peuple qui est en train de traverser le désert. Et la Bible nous dit que le peuple commence à rouspéter. Le peuple n'est pas content de ce que Dieu a décidé. Le peuple n'est pas content de ce que Dieu a pourvu. Le peuple n'est pas content de ce que Dieu leur a donné à manger. Et ils commencent à se plaindre. Et la Bible nous dit que Dieu va envoyer des serpents. Et ces serpents vont commencer à piquer les gens. Mais Dieu va pourvoir, suite à l'intercession de Moïse, Dieu va lui dire, fais un serpent d'airain et tu l'élèveras. Et quand les gens regarderont le serpent d'airain, même si un serpent vénéneux les morde, ils ne mourront point. Donc ça veut dire que même dans le châtiment que Dieu envoyait envers ce peuple qui était son peuple, ce peuple qu'il venait de libérer de la main des Égyptiens, ce peuple qu'il était en train de guider avec une nuée avec une nuée durant la journée et avec une colonne de feu la nuit, ce peuple qu'il était en train de mener vers la terre promise, ce peuple il était en train de rouspéter, ce peuple était en train de se plaindre, ce peuple disait on aurait été mieux de rester en Égypte, ce peuple était en train de dire à l'Éternel, on n'aime pas ce que tu fais, on préfère faire par notre propre chef, par nos propres décisions. Et la condamnation est venue, mais Dieu a pourvu à travers Moïse ce serpent d'airain. Et lorsqu'on reprend cette histoire dans le Nouveau Testament, un texte que vous connaissez très bien, dans Jean au chapitre 3, et je lis pour vous à partir du verset 14. Jean 3, le verset 14. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Oui, il y a possibilité de salut, même quand tu es tombé. Oui, il y a possibilité de restauration, même si tu t'es éloigné de Dieu. Alors, je ne sais pas si tu cadres ce matin dans cette caractéristique qu'on a mentionnée tout à l'heure au tout début de celui qui est amené vers la captivité. Peut-être que tu as expérimenté la liberté qui venait avec le salut et à un moment donné, tu t'es détourné des voies de Dieu pour retourner dans une vie où tu ignores Dieu, où tu fais à ta tête. Peut-être que tu n'as jamais pris cette décision de faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. Alors ce matin, je ne pourrais pas encore une fois terminer sans prier avec toi en t'invitant à effectivement demander pardon pour ton péché et demander à Dieu de prendre le contrôle de ta vie. Je ne peux pas faire cette prière à ta place et crois-moi, tu ne peux pas me tromper Dieu non plus avec une fausse promesse. Ce matin, si tu n'es pas prêt à lui donner ton 100%, crois-moi que si tu répètes les quelques mots que je vais t'inviter à prononcer, c'est une prière qui est vile et sans effet. Dieu, ce qu'il veut, comme ce vieux cantique nous le disait tout à l'heure, ce qu'il veut, c'est toi. Pas juste une partie, il veut toute ta vie. Ce que Dieu veut, c'est 100%. Alors, si c'est ta décision ce matin, je t'invite à prier avec moi. Répète ces quelques mots, c'est très court. Ça n'a pas une puissance particulière. C'est simplement la prière d'un cœur repentant qui demande à Dieu pardon et qui demande à Dieu d'être son Seigneur et son Sauveur. Alors répète après moi si tu veux le faire. Seigneur, j'ai entendu ta parole et je sais que je suis pécheur. Et je suis en voie vers la condamnation. J'ai compris ce matin que je ne peux pas te donner simplement que 99% de par qui tu es, de par ce que ta parole nous enseigne, de par ce qui a été établi de toute éternité. Ce que tu veux et ce que tu mérites, c'est 100%. Alors ce matin, je veux te donner ma vie, telle qu'elle est, avec tous les méfaits qui ont été accomplis hier, avec tous mes faux pas d'aujourd'hui, et avec toute ma faiblesse face à demain. Je veux te donner le 100% de ma vie. Je veux que tu sois le Seigneur exclusif de ma vie, le seul, l'unique. Pardonne mon péché. Pardonne mon iniquité. Je reçois aujourd'hui effectivement le pardon de mon péché. Je sais que tu as envoyé ton Fils et qu'il est mort pour moi à la croix. Merci. Je ne pourrai jamais te rendre ce que tu as payé pour moi. Merci Jésus. Aujourd'hui, je te reçois comme mon maître, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Toute ma vie t'appartient, à toi et uniquement à toi. Fais de moi ce que tu voudras à partir d'aujourd'hui. Je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà, c'était la prière et l'exhortation pour ce matin. On va se retrouver demain. Je vous rappelle que ce soir, vous avez rendez-vous avec le pasteur Sergio pour l'étude biblique sur le livre de Marc, avec comme thématique « Servir Dieu en des temps de défi ». Donc, on vous invite à être là. C'est à partir de 19h. Donc, ça sera bien sûr disponible plus tard sur Facebook et sur les plateformes habituelles que nous utilisons. Sinon, on se retrouve demain matin, 8h30, pour une 33e journée dans ce périple de 50 jours à étudier ce texte et à voir Dieu restaurer des vies, changer des vies et amener des vies vers le salut et vers la liberté. Alors que Dieu vous bénisse, soyez des agents encore aujourd'hui de liberté. Prenez du temps avec votre libérateur, le Seigneur Jésus, aujourd'hui. Et puis, on se retrouve demain matin. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.